vient de regrouper une présentation qui est bien générale. Alors, je ne vais pas rentrer dans beaucoup de détails, juste pour vous informer un peu de ce que quel est le rôle de l'IANA dans les plusieurs niveaux d'opération. Si vous avez des questions spécifiques sur un domaine en particulier, sentez-vous avec la liberté de la poser et je rentrerai dans plus de détails. Alors, je vais commencer donc avec la présentation et si vous avez des questions, s'il vous plaît, allez-y. Alors, qu'est-ce que c'est l'IANA? L'IANA, c'est donc l'autorité d'affectation de numéros d'inertes et les responsables pour les systèmes identifiants uniques de l'Internet. Alors, l'IANA, c'est pas une organisation formelle, c'est pas une société, mais c'est une entité, c'est un concept surtout. Elle est existante depuis les années 1970. C'est en fait l'institution la plus ancienne existante de l'Internet. Et vous voyez donc une photo de John Costello dans l'Adobe Connect. Et c'est en fait la personne responsable qui a dirigé l'IANA pour ses premières 20 années d'opération. Maintenant, elle est opérée par l'ICANN. Et elle est opérée par l'ICANN depuis l'année 1998. Et donc, c'est vraiment l'ICANN qui est maintenant l'opérateur de l'IANA. Comme vous le savez, l'ICANN, c'est une organisation qui a été donc programmée par la communauté globale pour organiser les numéros et les identités de l'Internet. Et donc, c'est maintenant cette société qui est responsable pour organiser donc les documents originaux. L'ICANN est maintenant connu par quelques documents comme l'IANA. Alors, lorsqu'on parle de l'IANA en ce moment, en question de le rôle de l'IANA, nous allons parler, par exemple, de ses fonctions ou surtout à savoir un département de l'ICANN. Moi, je travaille donc avec le département de l'ICANN et lorsque je dis que je travaille pour l'IANA, c'est un département qui fait partie de l'ICANN. Alors, la question de pourquoi l'IANA existe, comme vous le savez, l'Internet n'a pas donc une agence de contrôle centrale de l'Internet, parce que n'importe qui peut donc se connecter de n'importe quel point de l'Internet et n'a pas besoin de s'enregistrer dans une location centrale. Alors, cela marche de cette manière parce que les ordinateurs connectés à l'Internet utilisent les mêmes systèmes d'identifiant pour se parler l'une à l'autre. Alors, si vous touchez, par exemple, google.com à l'Internet, vous allez arriver au même endroit. Si vous mettiez google.com, si vous étiez dans un autre endroit à l'Internet, si vous avez une adresse d'IP enseignée à un ordinateur, ce serait la même adresse n'importe où vous êtes présent. Alors, cette consistance des systèmes de numéros, elle est importante pour se rassurer donc que le système est toujours opérable. Alors, même s'il n'y a pas un contrôle central, toutes les personnes utilisent les mêmes systèmes de numéros à travers la planète pour que ça marche de la même manière pour tout le monde. Et ce système marche de la même manière pour toute la planète et c'est le rôle de l'IANA. S'il n'y avait pas une consistance, il y aurait donc une grande désorganisation parmi ces systèmes et l'ICANN est donc organisée donc, pour maintenir cette consistance et pour se rassurer que les utilisateurs et les numéros sont utilisés de la même manière par tout le monde. Alors, les services de l'IANA peuvent être donc divisés dans trois considérations. Donc, des noms de domaines, des ressources de numéros et donc affectation destination. Et je vais expliquer donc chacune des catégories, expliquer de quoi chacune s'agit. Alors, les ressources de numéros, c'est la partie la plus fondamentale de l'Internet. Alors, les numéros veulent dire les adresses que chaque personne utilise pour se connecter individuellement à travers la planète. Sans ces numéros, il n'y aurait pas d'Internet parce qu'on se base sur ces numéros pour transmettre soit des messages d'un ordinateur à l'autre. Alors, ces numéros s'appellent donc des adresses d'IP. Alors, chaque ordinateur qui est connecté à l'Internet a une adresse. C'est comme si vous envoyez une lettre, par exemple, par courrier. Lorsque vous mettez l'adresse sur l'enveloppe, cette enveloppe sera donc envoyé par le courrier, mais ça arrive à son destinataire final parce que ça a une adresse spécifique sur l'enveloppe. Et donc, les adresses IP marchent de la même manière et ont donc le même fonctionnement. C'est donc l'identifiant unique qui permet que l'information qui est transmise à travers de l'Internet qui arrive exactement où elle est censée d'arriver. Alors, avec cette adresse unique, il n'y a pas de question où, par exemple, l'information doit être transmise. Alors, il y en a plusieurs donc, versions d'adresse de protocole d'Internet, celle qu'on utilise aujourd'hui et avec laquelle que vous êtes plus au courant, c'est IP version numéro 4. Elle a été développée à la fin des années 80 et elle contient 4 billions, un milliard d'adresses spécifiques, puisque ce n'est pas suffisant. Il y a une autre version qui est en train d'être développée en ce moment, c'est la version numéro 6, et bon, on parlera en plus de détails de cela. Alors, puisqu'il y a tellement d'adresses IP, 4 milliards pour la version 4 ou plusieurs plus pour la version 6, il faut qu'il y ait une manière pour, disons, regrouper les groupes d'adresses dans des réseaux individuels. Alors, ça permet pour que l'acheminement dans l'Internet soit plus simplifié. Alors, si je donne un exemple, imaginez si, par exemple, et j'utilise un exemple d'envoyer une lettre par courrier. Alors, imaginez que votre courrier devait connaître tous les adresses du monde. Ce n'est pas possible, je veux dire. Alors, il y a donc des codes postaux et ça va permettre donc au courrier à être au courant de l'aire générale où il va donc délivrer la lettre. Et donc, à l'Internet, nous avons quelque chose de très similaire et c'est connu comme des systèmes autonomes. Alors, c'est donc des identifiants uniques pour chaque réseau qui utilisent donc à connecter avec les autres réseaux et ça donc dirige le trafic d'une direction à l'autre. Ça permet donc de gérer le trafic à travers l'Internet. Alors, de cette manière, si le trafic donc flux à travers l'Internet avec toutes ces différentes adresses, telles comme j'avais mentionné, IPv4 se termine. J'ai donc un graphe ici qui montre, par exemple, quel est le souci. Alors, la ligne verte représente la quantité d'adresses disponibles par l'IANA et ça, en fait, ça, c'est en ligne descendante et ce n'est pas très, très rentable parce que si vous voyez bien, vous pouvez voir que la quantité d'adresses va se terminer dans les années à l'avenir. Et dès qu'on n'a plus d'adresses, il n'y aura pas donc l'habilité de créer des nouvelles. Alors, la ligne orange. Alors, la ligne orange montre la quantité disponible dans les plusieurs bureaux d'enregistrement. Et je vais vous expliquer ça, mais c'est un espace à part d'adresses disponibles. Et ça, c'est donc les intermédiaires qui affectent des adresses d'Internet. Et donc, utilisent de cette manière-là les bureaux d'enregistrement. Et donc, ils ont un groupe et lorsqu'ils terminent, ils se mettent en contact avec l'IANA. Alors, s'ils veulent donc amplifier leur ligne, ils ont des numéros encore disponibles, mais lorsqu'ils n'ont plus d'adresse disponible, ce sera le seul endroit à donc affecter des adresses, l'IANA. Alors, comme vous pouvez voir, dans les plusieurs années, on n'aura plus d'adresse disponible IP. Donc, il y a une question de quand est-ce que va se passer, et donc, c'est une question de quelques mois. Mais c'est bien clair qu'il n'y a pas beaucoup d'adresses déjà disponibles. Alors, si nous faisons un mappage en question de l'espace qui ressemble à une carte, vous pouvez voir que l'espace blanc, ceci n'a pas encore été alloué. Et puis, les espaces en couleur, c'est déjà les adresses qui ont été déjà affectées. Alors, on dirait que c'est beaucoup, mais tel comme j'ai dit avant, il y a donc des prédictions à cause de la vitesse dans laquelle ces adresses sont affectées qu'elles vont se terminer bientôt. Alors, IPv6, ça, c'est la prochaine technologie pour essayer d'amplifier donc l'espace d'adresses pour l'Internet et c'est une quantité énorme d'adresses. Je ne peux même pas lire la quantité d'adresses que je vous donne. Donc, je vais vous expliquer ça sur l'écran, mais une manière de comparer la quantité d'espace d'adresse de l'IPv4 et l'IPv6, c'est d'imaginer que tout l'espace de l'IPv4 existe dans un espace, par exemple, d'un téléphone. Alors, vous pouvez imaginer ces 4 milliards qui occupent cette grande quantité. Et la quantité de l'espace IPv6 va donc rentrer dans un espace grand comme la Terre. Donc, clairement, l'IPv6 permet une expansion plus large d'adresse Internet. Et donc, ça va donc résoudre, le fait qu'il n'y a pas assez de numéros en ce moment pour affecter. Alors, en question de l'IPv6 et la disponibilité, on peut bien dire que il n'y a pas une grande étude de ces numéros qui ont été alloués. De ce que nous avons alloué jusqu'à ce moment, un huitième des espaces d'adresse ont déjà été alloués à l'UNICAST, et c'est la transmission régulatrice à l'Internet. De ce huitième, il y a 512 subsegments qui ont déjà été alloués, et de ces segments, un a été déjà alloué à chaque région. On a donc divisé entre les 5 régions principales. Il y en a un qui est donc mélangé dans les autres, mais à part ça, il n'y a pas une grande quantité qui a été allouée. Et même avec les 6 allouements initiales, la quantité qui a été allouée entre chacun groupe, elle est très, très mineure. Donc, il n'y a pas une grande quantité qui a été allouée dans le nouveau système. Alors, la manière dont ça fonctionne, le système d'affectation numéro, la majorité des numéros qui sont alloués, ils sont alloués dans, à travers un système de bureau d'enregistrement de région. Il y en a un dans chacune des régions. Et la manière dont ça fonctionne, vous recevez donc un adresse IP. Alors, l'IAN donne, disons, un bloc énorme d'adresses IP à chacun des bureaux d'enregistrement de ces régions. Alors, si vous habitez en Europe, par exemple, pour les adresses IP de l'Europe, l'IAN va donner donc à un groupe à RAC MPC. La RAC MPC, donc, va donc diviser encore ces adresses. Et alors, vous, comme utilisateur, on vous affecte une adresse IP lorsque vous vous connectez. Et cette adresse IP va venir donc du groupe que le bureau d'enregistrement possède. Alors, il y a donc quelques blocs qui ne sont pas alloués à travers de ce mécanisme par l'IANA. Il y a quelques blocs qui sont utilisés pour des buts spéciaux. Il y a un bloc, par exemple, d'adresses IP qui sont utilisées que pour les réseaux internes. Si vous êtes dans un bureau, par exemple, il peut savoir que dans votre bureau, il va y avoir un bloc d'adresses spéciales dans votre bureau. Et donc, c'est un groupe spécial qui possède l'IANA. Et c'est des adresses IP qui n'ont pas de limitation. Donc, comme elles sont utilisées, mais elles peuvent être que utilisées internement dans le réseau des sociétés. Alors, il y a quelques blocs que l'IANA peut affecter aux utilisateurs, mais c'est une quantité qui est très limitée aussi. Alors, il y a 5 régions de numéros d'allouement de bureaux d'enregistrement. Comme vous pouvez voir, ARIN, c'est l'agence de l'Amérique du Nord. L'ACNIC, c'est l'agence de l'Amérique latine et du Caraïbe. RIP-NCC, c'est l'agence de l'Europe. ARFENIC, c'est l'agence africaine et APMINIC. C'est la région de l'Asie-Pacifique. Alors, et c'est mon résumé de numéros. Maintenant, nous allons parler donc de la deuxième catégorie, et je pense que c'est le domaine le plus intéressant de l'IANA, et ça parle des noms de domaines. Alors, je n'ai pas besoin de rentrer dans les détails en question dans la structure de domaines, mais bon, je vais vous expliquer ça un peu pour que vous puissiez comprendre ce que je veux dire. Alors, le système de domaines, c'est une hiérarchie. Donc, et cette hiérarchie constitue donc les noms de domaine. Alors, si vous avez un nom de domaine, il y a des points entre chaque nom de domaine et chaque point représente donc un niveau de hiérarchie. Et vous pouvez voir donc dans cette organigramme, ce que je veux dire. Alors, vous avez un nom de domaine, par exemple, mra.gov. Alors, mra.gov, c'est un niveau d'une hiérarchie qui est déléguée d'une zone, et ensuite, ça va remonter donc à .gov, qui a été délégué du .br, et le domaine du .br est alloué, disons, de la racine du DNS. La racine du DNS, donc, regroupe tout le système du DNS, et le système du DNS est suballoué de ce groupe. Alors, le niveau sous la racine, c'est donc le niveau à haut domaine, et le niveau à haut domaine a une variété de rôles, mais ça peut être divisé dans deux types. Alors, premièrement, nous avons donc le CCTLD, donc ça a deux lettres, et il y en a un alloué pour chaque pays du monde, et ils sont alloués en utilisant une norme utilisée à CCTLD, et c'est surtout utilisé pour que les pays peuvent opérer indépendants sans l'intervention de l'ICANN. Et le deuxième type de niveau haut niveau, c'est les GTLD, et c'est donc des niveaux à premier registre génériques, et c'est surtout pour l'utilisation globale. Alors, les codes de chaque pays sont affectés à chaque pays, mais les codes génériques ont, disons, des politiques à respecter, à utiliser pour chaque pays. Donc, c'est plus global que les CCTLD. Alors, le point en commun, c'est qu'ils sont tous délégués de la zone de racine de DNS. Et c'est la partie, donc, qui est opérée par l'IANA. L'IANA, donc, est responsable dans le système de noms pour déléguer, donc, les noms de haut domaine. Et c'est le rôle fondamental en question des DNS. Alors, la zone de racine de DNS, donc, elle délègue les noms de domaine de haut niveau, mais dans plusieurs aspects. Donc, si vous voulez, le centre de données des zones de racine, c'est comme un bureau d'enregistrement de domaine. C'est, disons, un domaine comme un .com ou quelque chose comme ça. Mais à la base, ce que nous faisons à la zone de racine, c'est la même chose, mais nos clients, c'est des bureaux d'enregistrement de haut niveau. Et donc, c'est les délégations qui sont gouvernées, et qui maintiennent donc les contacts, la sécurité et tous les éléments qu'un bureau d'enregistrement va faire. Donc, les opérateurs de haut niveau vont maintenir donc les documents importants et les fiches. Et la différence entre les CCTLD et les GTLD, c'est que l'existence dans sa totalité des GTLD est plus gouvernée par les contrats de l'ICANN et les CCTLD. Et surtout, il n'y a pas un contrat impliqué de l'ICANN et chaque pays a le droit d'avoir son propre groupe de domaine de haut niveau. Alors, comment gérer donc la zone de racine? On maintient donc les données des racines des DNS. Donc, on maintient donc des données techniques à permettre à la gestion donc de la zone. Il y a donc des données sociales qui n'est pas nécessaire pour le fonctionnement, mais c'est très important pour surtout l'administration du DNS. Donc, il y a des contacts administratifs, il y a aussi des organisations qui patrocinent aussi, mais c'est des registrants plus spécifiques, peut-être pour des entités légaux à qui on peut faire confiance pour gérer ces systèmes. Et il y a aussi donc la maintenance à les pages des bureaux d'enregistrement de haut domaine. Alors, il y a deux types de changements qu'on peut faire. Donc, alors, il y a les faciles, c'est les changements où vous pouvez mettre, par exemple, actualiser un numéro de téléphone ou quelque chose comme ça, ou un changement technique. Et tout cela est bien gardé. Et tout ce qu'on fait à ce moment, c'est garder l'authenticité, voir s'il y a un problème technique, et sinon, c'est implémenté. Donc, c'est très similaire, par exemple, à une transaction avec un bureau d'enregistrement. Alors, mais lorsque nous changeons l'opérateur d'un niveau de haut domaine, c'est tout à fait différent. Lorsque on veut changer donc l'opérateur, c'est une redélégation et la redélégation implique donc faire toute une évaluation de pourquoi cette transférence, le présenter donc au conseil de l'ICANN et le conseil de l'ICANN doit voter est-ce qu'ils sont d'accord. Donc, il y aura l'implémentation et l'évaluation et pour se rassurer qu'il y ait une stabilité de l'Internet qui ne sera pas perturbée, lorsqu'il y a une requête de changement de haut domaine, ça peut être très dangereux. Donc, c'est quelque chose qui est considéré d'une manière très minutieuse. Alors, en question de la gestion de la zone de racine, voilà ce que nous ne faisons pas. Alors, nous n'imposons pas des politiques. Nous sommes une agence administrative. Nous implémentons les politiques, mais nous ne créons pas les politiques. C'est surtout les plusieurs commissions de l'ICANN qui créent les politiques, mais il n'y a pas une politique qui, disons, couvre tous les aspects de ce que nous faisons. Alors, ça fait quelque chose, s'il y a un élément... Alors, deuxième chose que nous ne faisons pas, nous ne décidons pas quels sont les codes de deux lettres pour chaque pays. Des fois, il y a des requêtes pour enlever ou pour ajouter des codes. Il y a des pays qui sont très, très contents avec leurs codes en particulier. J'allais vous donner un exemple, mais bon, ce n'est pas approprié pour le moment. Il y a quelques pays qui ont des initiales à deux lettres. Et ça peut être interprété d'une manière dont ils demandent à que ça soit changé. Mais on se base sur la norme, surtout à rester dans un plan neutre. Et donc, de cette manière-là, ce n'est pas à nous d'affecter les codes des pays. Et donc, la chose la plus illogique, nous ne décidons pas qui gère le CCTLD. C'est un peu étrange parce que je viens de dire que nous sommes responsables pour l'affectation des opérateurs de haut domaine, mais lorsque ça revient aux opérateurs de haut niveau, on a la responsabilité de finalement changer les fiches et de changer donc les programmations techniques. Mais lorsque nous évaluons qui gère un niveau de haut domaine d'un pays, ce que nous faisons, c'est faire une révision pour se rassurer que qu'on a demandé de nous a été accordé donc dans la communauté locale de ce pays.
Peut-on augmenter le volume?
Et c'est surtout à demander. Et que ceux qui ont demandé pour ce changement ont déjà consulté correctement avec le pays, que la transférence sera donc faite de manière correcte. Et donc, nous sommes en train de refléter la volonté des gens et des utilisateurs locaux. Mais ce n'est pas notre rôle à décider qui va le gérer finalement. Alors, comment faire cette sélection de la part de l'IANA? Alors, voilà donc deux manières à décrire le procès. Première chose, alors, lorsque nous choisissons un manager à affecter la sélection pour un domaine, pour faire un travail correct, c'est à le faire de manière honnête et compétente. Et ensuite, les autorités qui sont affectées sont des autorités qui sont bien confiées pour la délégation des domaines et à servir la communauté. Et donc, le manager affecté, c'est la personne confiée à l'affectation de le domaine de haut niveau pour la nation et pour la communauté locale. Ce qui veut dire que l'organisation qui est affectée, c'est l'entité de confiance et on attend d'eux de faire un travail honnête. Mais bon, basiquement, c'est des agents de leur communauté et c'est à eux de le gérer de la manière la plus appropriée pour servir les intérêts de la communauté. Je m'excuse, il y a mon ordinateur qui se ralentit un peu. Alors, en question de l'assignation des hauts domaines, tout d'abord, il faut savoir que les réparateurs ont la compétence technique, qu'ils savent gérer donc le bureau d'enregistrement et compétence d'opération, qu'ils ont les habilités pour gérer donc ces entreprises. Surtout la structure légale de l'organisation, à savoir qu'elle est appropriée pour le pays. On demande absolument qu'il y a donc des opérateurs qui sont basés sur les pays d'où ils opèrent pour se rassurer qu'ils peuvent donc se conformer avec les lois locales. Par exemple, un pays, par exemple, à savoir quelles sont les ressources légaux et puis à savoir aussi les impératifs des gouvernements. Mais c'est quelque chose que nous prenons très sérieusement et surtout dans la considération pour assigner les opérateurs et surtout quels sont les points de vue de la communauté et qu'est-ce qui va être convenable pour la communauté. Donc, si ça existe déjà et c'est une transférence d'une partie à l'autre, on va se rassurer que cette transférence soit faite de manière correcte. Surtout en question de transférence d'une entité à l'autre et aussi que les niveaux de conformité et les plusieurs principes à suivre. Surtout à suivre les principes que je viens de mentionner précédemment. Lorsqu'il y a déjà une analyse, on présente donc un rapport au Conseil de l'ICANN et le Conseil de l'ICANN se réunit une fois par mois et donc ils analysent chaque requête et s'ils approuvent la requête, ils vont envoyer le règlement d'implémentation. Il y a donc un rapport public qui est affiché sur le site. Et bon, à la base, c'est donc le rôle de racine de zone, mais il y a donc d'autres fonctions, question de non-domaine. Alors, nous gérons donc les domaines de INC, surtout entre des traités de gouvernement, par exemple les Nations Unies, NATO, l'Organisation de santé mondiale, c'est des organisations. Et puisqu'ils n'appartiennent pas à un pays particulier, et puisqu'ils ne se gèrent pas par des lois nationales, donc il y a un domaine juste pour ces organisations. Et donc, les registrants qui n'ont pas des noms de domaine doivent toujours montrer les traités à pouvoir respecter les impératifs. Et de cette manière-là, donc, on fournit ces noms de domaine. Alors, .arpa, c'est un autre domaine que nous gérons. Ça fait partie donc d'utilisation technique de l'Internet, mais c'est nécessaire pour le fonctionnement interne de l'Internet. Et puis, nous opérons aussi les tables d'IDN. Les bureaux d'enregistrement partagent des pratiques de langage d'IDN en question des caractères et des lettres qu'ils utilisent pour chacune des langues. Et donc, c'est bien nécessaire pour les bureaux d'enregistrement à partager cela. Alors, maintenant, nous allons parler donc de la troisième catégorie en question du rôle de l'IANA, et c'est donc la fixation de protocoles. Et c'est en fait tout ce que nous faisons. Lorsque, par exemple, les identifiants uniques dans l'Internet sont gérés par l'IANA, c'est fait sans que les gens soient au courant, c'est fait sans intermédiaire et c'est fait avec la communauté de développement de protocoles. Et donc, et ça regroupe donc la majorité de notre travail, la raison pour laquelle nous gérons aussi une catégorie pour les noms de domaine. Il y a deux raisons, surtout pour l'allouement de la hiérarchie. Les systèmes de noms de domaine, c'est un système de hiérarchie où les responsabilités sont déléguées à travers de plusieurs niveaux, jusqu'au bureau d'enregistrement de haut niveau et jusqu'au registrant et au fur et à mesure. Et les numéros sont alloués aussi de manière régionale des bureaux d'enregistrement aux ISP, aux utilisateurs et voilà. Et donc, c'est unique à ces utilisateurs, mais les affectations de protocoles ne doivent pas passer par un processus d'affectation si compliqué. Donc, ils sont alloués à qui a besoin. Alors, aussi, en question des noms de domaine, et c'est pour cela que c'est compliqué, c'est parce que c'est très important C'est parce que c'est publié et c'est très politique. Et les gouvernements se préoccupent en question de ces éléments. Et donc, pour ces raisons-là, ces deux sont considérés plus intéressants que l'affectation de protocole. L'affectation de protocole, c'est vraiment le rôle principal de notre société. Alors maintenant, je vais vous donner une explication bref de comment les protocoles sont accrédités. Alors, l'IPS, c'est donc la manière principale d'uniformité. Il y a donc un attaché spécial d'ingénieur. Et c'est ici où la majorité des éléments se passent. Comme résultat donc du processus de développement de IPS, il y a donc un groupe de documents techniques appelés les IRC. Et donc ça comprend donc les normes de l'Internet et c'est maintenu par les plusieurs organisations. Et c'est donc l'organisation qui gère surtout ces normes. Alors que les RFC sont publiés et donc nous avons besoin de maintenir donc les bureaux d'enregistrement. IANA donc maintient leur bureau d'enregistrement surtout avec l'orientation de ce groupe spécial connu comme le IESG, et c'est la manière donc les bureaux d'enregistrement de IANA sont maintenus, surtout pour le développement des documents. Alors, je ne vais pas lister tous les protocoles qui existent, tous les bureaux d'enregistrement, mais vous pouvez les trouver tout ça www.iana/protocole. Je vous présente ici donc quelques-uns. Il y en a plusieurs d'entre eux. Il y a plusieurs d'entre eux desquels vous ne connaissez même pas parce que dans ces majorités, des fois, c'est des éléments qui ne sont pas utilisés par les utilisateurs. Et vous savez qu'il y a des noms de domaines et vous savez qu'il y a des adresses IP. Et c'est surtout les identifiants de protocoles qui sont visibles. Alors, l'affectation de protocoles est gratuite. Tous nos services sont gratuits. Nous ne chargeons pas d'argent pour faire des changements à la zone de racine. On ne charge pas d'argent pour l'affectation d'adresses IP et on ne charge pas pour affectation de protocoles. Le budget d'IANA fait partie donc du budget général de l'ICANN. Et donc, les critères pour l'affectation d'assignation, soit si quelqu'un a une région en validation, peut demander donc une affectation. Et sinon, il y a une demande de documentation à commencer à l'allumement. Les bureaux d'enregistrement populaire, par exemple, il y a par exemple une manière spécialisée ou automatique, par exemple, des numéros pour les entreprises privées. C'est un numéro spécial qui est utilisé pour les sociétés de corporations et surtout par les ingénieurs. Puis nous allouons plusieurs de ces numéros chaque jour. Donc, il y a un système d'enregistrement où les gens peuvent appliquer à travers de notre site et les maintenir de cette manière-ci. Alors, en résumé, c'est donc les trois catégories. Et finalement, il y a un élément important de l'IANA. Et quelle est la relation entre l'IANA et le gouvernement des États-Unis? Et bon, ce n'est pas une relation très compliquée, mais elle est très fondamentale. Toutes les fonctions de l'IANA, la majorité des fonctions de l'IANA sont faits à travers un contrat entre l'ICANN et le gouvernement. Ce contrat remonte à la création de l'ICANN et l'IANA, dans ces derniers temps, a été gouvernée par un contrat surtout. L'Internet lui-même, c'était un sujet de recherche par le gouvernement des États-Unis. Ça a été fondé par le gouvernement du gouvernement des États-Unis. Et jusqu'aux années 90, l'Internet, c'était un projet du département des États-Unis de commerce et du département de défense. En question de l'ICANN, le type de contrat changé, c'est à travers des plusieurs agences gouvernementales et c'est géré donc entre les contrats entre l'IANA et le gouvernement des États-Unis. Donc, nous présentons au gouvernement les plusieurs fonctionnements. Il y a donc un rapport mensuel en montrant en détail quels sont les changements, quels sont les paramètres utilisés et particulièrement, surtout, les autres changements que nous faisons. Il y a donc une relation spéciale en question des changements des zones de racines parce que c'est le gouvernement des États-Unis qui permet les changements. Et donc, l'IANA est responsable pour gérer les zones de racines. On reçoit la requête, elle est analysée, à savoir si elle est validée. Et si elle est validée, donc, à la fin, c'est envoyé au gouvernement des États-Unis. Et c'est le gouvernement qui va donner, donc, l'autorisation finale. Donc, c'est surtout, on envoie toutes les demandes, tous les processus au gouvernement, et c'est le gouvernement qui va donner l'autorisation finale. Et finalement, aucun changement que nous faisons n'a jamais été pas autorisé par le gouvernement des États-Unis. Ce n'est pas une question qu'ils choisissent s'ils n'aiment pas ou pas. Ça fait partie du processus et c'est la manière dont ça gère. Alors, en ce moment, ce que nous sommes en train de faire pour améliorer les services, en ce moment, surtout pour améliorer l'efficacité de processus, nous voulons donc créer plusieurs systèmes d'augmentation, surtout de solutions pour les zones de racines, à permettre des logements en ligne, à pouvoir être au courant des demandes en ligne, des emballages qui sont été envoyés. Et on veut être donc l'intermédiaire entre le département de commerce des États-Unis et surtout leur serveur de racines de zone. Donc, on veut faire la communication entre ces trois entités la plus rentable possible. Et en ce moment, il y a un essai que nous sommes en train de faire pour ce nouveau système. Et finalement, à la production et à faire un déploiement de ce système. Il y aura donc et pour se rassurer donc que ces procès fonctionnent de manière correcte avant de les implémenter. Et nous sommes en train de travailler aussi pour améliorer donc les processus techniques pour les zones de racines. Il y a donc des impératifs techniques pour les opérateurs de haut domaine. Nous sommes en train de travailler pour les clarifier, à pouvoir fournir des outils pour faire des essais de performance et aussi parce que l'adoption de l'IPv6 est en train de grandir. Nous sommes en train d'introduire donc des règlements d'acceptation pour les types. Et puis aussi, nous sommes en train d'ajouter des nouvelles impératifs pour s'assurer que les opérateurs de haut domaine ne sont pas vulnérables à ces types d'attaques. Et nous sommes en train de travailler c'est dans l'internationalisation des CCTLDS, mais surtout parce que nous avons une relation plus en détail sur les CCTLDS, nous sommes en train de travailler sur cette internationalisation dans les cercles de politique de l'ICANN. Nous sommes en train de travailler sur le processus de fast track et ce processus va permettre pour les domaines de haut niveau des pays à être affectés. Et cela sera donc mis à la disponibilité de chacun des pays, par exemple en chinois, en arabique et en coréen. Par exemple, ces communautés ont une grande difficulté pour utiliser donc les caractères en latin. Donc, nous sommes en train de trouver une manière d'internationaliser ce système. Et donc, en ce moment, nous avons besoin quand même de l'appui gouvernemental et social, mais il n'y a pas surtout ça sera donc un système pour que chaque pays, disons, présente quel est le code à assigner. Ce n'est pas un système que nous n'avons pas encore commencé, mais nous sommes déjà en train de travailler sur de là. Et finalement, lorsque déjà c'est développé, ça sera présenté au Conseil pour l'approbation finale et à partir de ce moment-là, ça sera donc implémenté. Alors, nous sommes en train de travailler aussi dans quelques travaux de sécurité. DNSSEC, il y a une autre présentation qui dure plusieurs heures. Mais c'est surtout technologie pour DNS, surtout pour augmenter la protection et aussi à essayer de trouver plusieurs manières de protection, surtout pour la sécurité. Et c'est la fin donc de la présentation. Liana donc maintient les bureaux d'enregistrement pour les numéros uniques du système. Et ça maintient donc l'interopération de l'Internet. La majorité des bureaux d'enregistrement d'IANA sont bien clairs et ne sont pas généralement visibles aux utilisateurs. Et c'est surtout délégué de manière hiérarchique. Les bureaux d'enregistrement sont utilisés pour les systèmes de noms de domaine et pour les ressources de numéros. Et l'IANA donc maintient la racine globale pour tout cela. L'IANA donc opère ses fonctions d'enregistrement sous donc la subvention et l'autorisation du gouvernement des États-Unis et l'ICANN. Et tel comme j'ai mentionné donc, c'est surtout sous l'autorisation et sous le contrat de l'ICANN et du gouvernement des États-Unis. Et donc j'ai déjà voilà donc quelques pages de notes pour cette présentation. Vous pourriez lire donc ces pages pour avoir plus de détails. Il y a beaucoup d'informations en question de détails qui mentionnent tous les éléments que j'ai mentionnés en plus de détails. Et donc, c'était surtout une présentation à vous donner un point de vue général parce que des fois, surtout... à chaque partie de la communauté avec qui on traite. La majorité donc des membres de la communauté ne s'en rend pas compte que nous traitons surtout avec les autres racines. Et ils ne s'en rendent pas compte qu'il y a des adresses IP. Tout ce qui les concerne, c'est surtout arriver à leur point. Et donc, voilà les plusieurs domaines travaillés par l'IANA, même si ce n'est pas pertinent. Et avec ça, merci beaucoup. J'espère que ça a été intéressant pour vous. Et j'espère maintenant que vous avez, si vous voulez un point de vue plus détaillé au rôle de l'ICANN, si vous voulez m'envoyer des courriers électroniques, ou sinon, poser des questions en ce moment. C'était magnifique, c'est de la part de Nick et moi j'ai appris beaucoup de choses, j'espère que tout le monde a appris quelque chose aussi. Et quelque chose, et si je pourrais donc ajouter, c'est Chérie qui parle en ce moment. Avec donc la réunion de sommet, nous sommes en train de nous rassurer que toutes les structures d'ad large, dont l'ICANN, surtout le mouvement de l'ICANN en une compréhension basique en question de comment fonctionne le système de développement des politiques. Nous allons au moins avoir des limites, j'espère bien. Comment est-ce que nous allons donc mener les membres de la communauté avec toute cette diversité de langues et surtout à pouvoir mener donc les compréhensions des impératifs des politiques. Est-ce qu'on peut vous demander de travailler avec donc les personnes qui sont en train de développer les contenus et le personnel d'Adlarge pour essayer de développer ça, à présenter du langage simple, à pouvoir présenter pendant le sommet et peut-être pouvoir se concentrer surtout l'implication de la communauté des utilisateurs, parce que ça sera surtout Si vous voulez, c'est une possibilité de faire ça et de travailler en faisant ça. Bon, c'est une possibilité, bien entendu. Il y en a, avec plaisir, va préparer des documents, va expliquer leur rôle, mais surtout, on peut savoir de votre part quelle est la direction. Moi, je peux rentrer dans beaucoup de détails, des détails qui sont un peu ennuyants en question de notre rôle. Mais ça sera à vous de nous dire si ça sera utile, surtout. Mais oui, je pense que l'ICANN. Alors, dans la chaîne en français, si vous avez des questions, c'est le moment à poser des questions. Hein? Nous allons avoir donc un jour de planification en se concentrant sur le sommet. Le samedi avant la réunion de l'ICANN au Caire, il y aura donc l'opportunité à pouvoir travailler sur ce sujet dans cette semaine à l'avenir pour pouvoir parler en plus de détails en question de ça. Mais je pense que ce serait bien de prendre ce moment à pouvoir parler sur ceci en plus de détails. Oui, je suis tout à fait d'accord. Liane veut contribuer surtout et si nous avons donc un avis en avance, on voudra bien participer dans cette réunion. Vous allez au Caire? Oui, je serai au Caire. Alors, Nick, je pense qu'on devra se rassurer que le groupe de travail, parce qu'il y en a plusieurs membres actifs dans le groupe de travail et plusieurs représentants, je pense qu'il faut se rassurer qu'ils sont tous au courant, surtout du rôle de Liana. Et les éléments dans lesquels ils travaillent surtout. Alors, en question de la planification, c'est que ça peut être un peu compliqué des fois, mais surtout compliqué du point de vue technique pour les gens qui n'ont pas les connaissances. Et donc, pour le sommet, nous sommes en train de planifier comment présenter ça à la communauté et donc des contacts et à présenter des éléments plus simplifiés du rôle de Liana. Oui, et je suis tout à fait d'accord.
This is Fatimata.
Alors, dans la chaîne en français, si vous avez des questions, hein, vous pouvez les poser. Hein?
Oui.
Mais ça aide surtout en question de la discussion de politique. Il y a donc une connexion entre la communauté et comment gérer surtout la sécurité. Notre rôle, bien entendu, n'inclut pas des fois l'élément de la communauté, mais bon, il faut travailler sur ça. Je comprends ça, Kim, mais nous avons besoin donc à pouvoir impliquer plus des ALF.
Maya, can you speak a little bit louder?
Alors, vous m'entendez en ce moment?
Voilà.
Okay.
Merci.
Oui.
Magnifique. Alors, et si vous arrêtez, si vous avez raté la dernière partie en ce moment, ils sont en train de discuter sur le fait qu'il faudra donc peut-être le samedi avant la réunion du Caire à essayer donc de travailler sur une présentation plus simplifiée pour la communauté. Parce que c'est vrai que les gens qui ne sont pas très au courant des termes techniques ne vont pas trop comprendre le rôle de Liana. Alors, y a-t-il des questions en question de ça?
Oui, j'ai une question. Allô?
Oui. Question from the French panel. Yes. Oui, je vous entends.
Je voudrais poser une question.
Alors, je vous entends, allez-y.
Allô?
Oui, je vous, vous m'entendez là?
Oui, c'est Gabriel, je vous attends. Ma question concerne la dépendance de l'Irana vis-à-vis du gouvernement des États-Unis. Est-ce qu'il y a des propositions dont le gouvernement de l'Irana, que le gouvernement des États-Unis n'a pas approuvé ou bien refusé, ces propositions n'ont pas été mises en application?
Alors, s'il vous plaît, répétez votre question parce qu'il y a un problème avec le son.
Oui, c'est Gabriel. J'appelle du Congo. Je voulais voir concernant la dépendance de l'IANA vis-à-vis au gouvernement des États-Unis. Est-ce qu'il y a des propositions faites par l'IANA que le gouvernement des États-Unis n'a pas approuvées ou ces propositions n'ont pas été mises en application jusque-là?
Alors, monsieur, je m'excuse, mais j'arrive pas à comprendre la question. Je suis désolée, mais il y a un problème de connexion.
Je peux répéter pour vous, Maya?
Je vous entends.
Oui, je disais concernant la dépendance entre le l'IANA et les gouvernement des États-Unis. Est-ce qu'il y a des propositions faites par l'IANA que le gouvernement des États-Unis n'a pas approuvées et qui n'ont pas été mises en application à ce moment-là?
Alors, je viens de poser la question et merci pour la question. Alors, en question, à répondre à ça. Donc, lorsqu'il y a des changements, on a toujours besoin des requêtes. Si nous avons besoin de la probation du gouvernement, non. Mais lorsqu'il va, nous allons faire des changements au domaine, oui. Alors, lorsque nous voulons faire des changements à la manière dont on gère l'IANA, nous avons toujours besoin de l'approbation du gouvernement parce que ça modifier les termes du contrat de l'ICANN. En ce moment, par exemple, nous voulons changer la zone de racine de DNS. Alors, pour affecter cela, nous allons donc besoin de l'autorisation du gouvernement des États-Unis. Donc, ils n'ont pas rejeté ça, par exemple, mais on a déjà présenté la proposition, mais on n'a pas encore reçu la réponse. Alors, il n'y a pas de proposition rejetée de choses que nous voulons faire. Mais il faut toujours attendre à recevoir leur réponse lorsque nous voulons donc faire des changements. Donc, il n'y a pas d'indication que nous n'allons pas recevoir l'autorisation, mais c'est une question de bureaucratie et ça prend du temps. J'espère bien que ça répond à votre question. Mais jusqu'à maintenant, il n'y a pas, disons, des propositions rejetées de la part du gouvernement.
Okay, merci.
Alors, Kim, est-ce que vous savez quand est-ce que la racine va être signée? Y a-t-il un progrès? Alors, je vais répondre ça aussi dans cet appel. Nous voulons donc affecter la zone de racine et donc l'affecter de cette manière parce qu'elle n'est pas encore présente. On a déjà présenté la proposition au gouvernement des États-Unis à nous permettre de faire ça. On n'a pas encore une réponse, mais il y a des consultations en parcours en ce moment. Et je voyage à Washington DC dans quelques jours pour parler sur ce sujet. Et puis, j'espère bien avoir des réponses en question de l'affectation de ça. Mais c'est notre intention surtout pour l'affectation de la zone de racine. Il n'y a pas une limite de temps, mais il y a plusieurs risques de sécurité qu'on doit traiter. C'est pour cela qu'il faut affecter donc la zone de racine. Merci.
J'ai une question. Maria?
Yes, a question from the French channel. Oui, je vous écoute. Je vous écoute. Oui, je vous écoute.
Oui, juste une question complémentaire par rapport à la question de Gabriel.
Oui.
Est-ce qu'il y a dans la procédure des délais de réponse quand on soumet une demande au gouvernement américain, est-ce qu'il y a une période à laquelle on s'attend à une réponse ou bien au-delà de laquelle on se dit que c'est accepté s'il n'y a pas de réponse? Ou bien il faut attendre indéfiniment si, même si la réponse ne vient pas?
Alors, on attend à toujours recevoir une réponse de leur part. Alors, en question des changements, si on ne reçoit pas une réponse, on leur envoie des rappels. Mais surtout, lorsqu'il y a des changements, on doit recevoir une réponse après un jour. Mais si c'est un changement important aux opérations, surtout du DNS ou changement du contrat, surtout, ils ont besoin d'analyse de leur part. Donc, il n'y a pas une limite de temps. Lorsque nous proposons de changement comme ça, nous expliquons quels sont les besoins de l'agence et l'importance à recevoir une réponse. Mais il n'y a pas surtout une ligne de temps quand est-ce qu'on reçoit des réponses. Bon, bien entendu, nous attendons, des réponses et nous informons les gens au fur et à mesure lorsqu'on reçoit donc, mais surtout en question de l'affectation de zones de racines, c'est quelque chose que nous sommes en train de travailler. Lorsque nous avons une idée de lorsque nous allons recevoir la réponse, on informe les membres intéressés. Merci, Tim. Y a-t-il quelqu'un dans la chaîne en espagnol qui a une question à poser? Non, pas de question dans la chaîne en espagnol. Merci beaucoup. Alors, y a quelqu'un d'autre qui veut ajouter une question? Alors, y a-t-il plus de questions de la chaîne en français? Alors, merci beaucoup, surtout pour cette présentation, parce qu'il est minuit et donc je n'ai pas eu de difficulté à suivre. Donc, et Kim, si je peux vous dire, les membres de la Société de l'Internet de l'Australie, bon, on sait qu'il y a toujours quelques difficultés aux questions de la programmation de l'organisation, surtout parce que c'est vrai que c'est difficile, mais merci beaucoup, Kim. Et donc, je soupçonne que nous avons beaucoup de travail à faire entre Liana et surtout le personnel de AdLarge et les planificateurs entre le Caire et Mexique. Nick, vous avez quelque chose à ajouter? Non. De nouveau, merci beaucoup, Cheryl. Vous êtes réveillée les minuit et vous entendez. Et Kim, il est 6 heures du matin et donc on vous remercie aussi.
Merci.
Et Kim est en fait à Bruxelles, donc voilà.
Okay. Merci.
Et donc, merci
au revoir,
donc
Maria.
Pour l'opportunité à me oui. donner cette opportunité de vous donner cette présentation. J'espère bien que vous avez compris un tout petit peu plus de ce qui est le rôle de Liana. Et donc, si vous avez encore des questions, Et si vous voulez m'envoyer des messages par courrier électronique, vous pouvez voir donc mon adresse sur les notes affichées et sur les pellicules. Et comme toutes les sessions de briefing, c'est là donc sera affiché et donc toutes les sessions de briefing sont annoncées sur le résumé mensuel de politique qui est distribué. Donc vous serez tous immortalisés. Alors, merci beaucoup à tous et bonne soirée et bonjour et au revoir à tout le monde.
Au revoir et merci Manuel.
Et au revoir.
C'était un plaisir et passez une très bonne journée. Hein? Au revoir.
Merci, pas vraiment. Grazie.